des copains, l'émission des années 60.
Salut les copains
sur RVE. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, la popularité d'Emmanuel Macron en baisse selon un sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche. La cote de popularité du chef de l'État baisse d'un point, de 34 à 33%. Le total des mécontents à l'égard du président, même s'il reste très élevé, baisse de 2 points pour atteindre 64%. En revanche, c'est l'embellie pour Édouard Philippe. Toujours selon ce sondage, la cote de popularité du Premier ministre passe de 36 à 38%. Un homme a foncé volontairement hier soir sur l'entrée de la grande mosquée de Colmar. Le conducteur a été rapidement interpellé sur place par la police après s'être blessé lui-même à l'arme blanche. Aucun autre blessé n'est à déplorer. Une enquête est en cours. Le Texas sous les eaux après le passage de la tempête tropicale Imelda et 3 jours de pluie diluvienne. Les évacuations se multiplient. Près de 1000 personnes ont été secourues. L'eau est montée rapidement. Dans certains endroits, elle a atteint 1 mètre en moins de 48 heures. 5 personnes sont décédées suite à ces inondations. Hassan Rouhani, le président iranien, a affirmé ce matin que la présence de forces étrangères dans le Golfe accroît l'insécurité. Une annonce qui intervient après la décision des États-Unis d'envoyer des troupes en renfort dans la région. Hassan Rouhani a également annoncé qu'il allait présenter très prochainement un plan de coopération à l'ONU. Celui-ci permettrait d'assurer la sécurité du Golfe Persique, du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman, selon le président iranien. Enfin du sport, avec de l'IndyCar, le français Simon Pagenaud va partir en 6e position du Grand Prix de Monterey. Il devra remporter cette 17e et dernière manche. Il veut être sacré champion d'IndyCar pour la 2e fois. Le français, vainqueur en mai des 500 miles d'Indianapolis, a déjà été sacré en 2016. Un autre français, Sébastien Bourdais, partira lui de l'avant-dernière ligne en 19e position.
Dans quelques instants, on retrouve le sport avec Philippe Carnus. La météo de ce dimanche, où on aura un ciel relativement nuageux, avec de très rares éclaircies et quelques possibilités de rares averses. Température dans la journée, maximum 21 à 22 degrés. Bonne journée à l'écoute de RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnus.
Et oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Alors après l'émission de rentrée de la semaine dernière, hein, on était naturellement revenu sur les grands événements sportifs de l'été sur Rambouillet. On vous avait promis pour ce dernier dimanche de l'été une surprise. Eh bien, la surprise, elle viendra de Montréal et du Canada, puisque notre radio a eu l'occasion de pouvoir donc assister au Grand Prix cycliste de Montréal à l'invitation des organisateurs et notamment de Serge Arsenault. Donc on reviendra sur cette belle matinée de sport vécu à Montréal à travers ce Grand Prix cycliste, mais aussi à travers donc la vie sportive canadienne. Et puis naturellement, dans la deuxième partie de cette émission, on retrouvera notre région avec une belle interview et grande interview de Jean-Louis Mazard, le président du tennis club de Rambouillet. Tout de suite donc, on part à 6000 km de notre région, on va au Canada, hein, ça sera notre cadeau de cette fin d'été. Pour revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir le Grand Prix cycliste, on va d'abord vous rappeler la victoire du Grec, du Belge Greg Van Avermaet devant Diego Ulissi et Ivan Garcia. Mais avant même de pénétrer dans le cœur de la course, on va d'abord savoir l'importance de cette course dans le calendrier sportif canadien, avec celui qui l'a mise sur pied il y a une dizaine d'années, c'est le créateur Serge Arsenault. Serge, un petit mot sur cette édition 2019.
Alors on est comblé à cause de la participation, c'est la course des coureurs, c'est ce qu'on voulait. Tous les plus grands sont ici. Première étape sur Québec qui était exceptionnelle et l'étape de Montréal en sera une également, d'une autre nature mais difficilement gagnable pour n'importe quel de ces grands leaders qui sont ici. Ça va être difficile, dur, mais nous, mission accomplie, nous sommes très heureux et Québec et Montréal dans le fond reçoit l'élite mondiale du cyclisme. C'est leur course. C'est le cadeau qu'on nous a fait d'avoir une organisation que je pense bien en place, de nous remercier d'être ici Et c'est une grande course, surtout Montréal également cette année, avec deux tours supplémentaires, qui est maintenant presque une course, c'est le cas de le dire, monumentale.
Oui, tous les meilleurs coureurs sont là. À l'exception de Bernal, tous les meilleurs coureurs sont là.
Oui, exactement. Et les championnats du monde qui vont avoir lieu dans 15 jours aussi ont été une des raisons par ces deux parcours un peu similaires. Et c'est devenu un peu la course des grands. Alors autant on a des rendez-vous en Belgique, les Flandriennes et tout ça, qu'ailleurs maintenant, on appelle ça ou la Canadienne ou les Québécoises. Ils s'en viennent parce que c'est pratiquement un passage obligé pour la plupart d'entre eux.
Oui, et puis aidé par des anciens champions français qu'on a croisés, Bernard Vallet, Yves Hézard, Charlie Mottet.
Bien sûr, parce que le cyclisme n'a pas de frontières. Donc, les gens qui travaillent pour les Grands Prix du Québec et de Montréal sont les meilleurs sur la planète pour comprendre le cyclisme, pour être sûr qu'on puisse répondre aux besoins de tous. Et également, ce n'est pas uniquement au niveau technique. En télévision, nous avons Jean-Maurice Hogg, qui est le réalisateur du Tour de France et tout ça, mais qui travaille en partenariat, c'est bicéphale, avec un grand réalisateur américain, pour avoir d'un côté la connaissance profonde du cyclisme et de l'autre le rythme essentiel à une télévision mondiale.
Comment est venue la création de cette épreuve, il y a 10 ans? Comment c'est arrivé?
Bon, c'est très simple. La Formule 1 quittait Montréal. J'ai parlé aux deux maires en disant qu'il fallait être maître chez nous, c'est-à-dire être propriétaire de nos événements, contrôler également la durée de l'événement et surtout s'assurer que ce soit permanent, puisque pour les villes de plus en plus, ce sont les événements récurrents, permanents, qui sont importants, tant dans le domaine sportif que culturel.
Et vous avez aussi participé, je crois, au lancement du marathon aussi, hein?
Oui, en 79, c'est un peu la même chose. On remonte à loin, mais c'était le maire Jean Drapeau qui avait été le grand artisan des Olympiques 76, qui m'avait dit, Serge, ce serait important si on pouvait mettre sur pied un grand événement qui pourrait être un peu des retombées de la présentation des Jeux olympiques 76. Et c'est comme ça que le marathon de Montréal est devenu, à l'époque, un des quatre grands marathons mondiaux en compagnie de Boston, de New York et de Londres.
Alors, le vélo, la course à pied, il y a d'autres idées pour développer encore plus le sport au Canada, pour faire parler encore plus du sport au Canada?
Oui, la pêche dans le Grand Nord. C'est là où je m'en vais demain.
Ah d'accord, ok. Un petit mot sur ce Grand Prix, vous avez un favori, Serge?
Non.
Non?
Non.
Jamais?
Non.
Jamais?
Impossible pour moi, je veux dire, c'est l'interdiction, même dans mes règles.
Ouais, ouais. Bien sûr. Un petit mot quand même sur l'équipe qui travaille autour de vous, avec vous.
Ben, comme je l'ai dit, c'est une équipe de professionnels qui connaissent très très bien le cyclisme. On le respecte des directeurs d'équipe, de l'UCI, des coureurs. Et c'est pour cette raison-là que, je le pense, nous avons une des meilleures organisations au monde, tant sur le plan sportif, médiatique, télévision, respect des coureurs, qu'ils sont tous au rendez-vous. Et on ne peut pas faire un événement comme ça sans avoir les plus forts ou les plus fortes dans chacun des secteurs d'activité.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus dans cette organisation?
De revenir l'an prochain.
Ouais, merci en tout cas, on reviendra.
Merci.
Voilà, donc effectivement, c'est un des événements importants de la vie sportive canadienne. Et on a voulu en savoir un peu plus sur le sport d'une façon générale au Canada. Et on l'a fait avec notre sympathique confrère, donc... je ne me rappelle plus par contre, attends. Du confrère, oui, Antoine Dehaye. Donc je recommence. Voilà, merci à Serge Arsenault. Effectivement, ce Grand Prix cycliste, il est important dans la vie sportive canadienne. Mais naturellement, il n'y a pas que le vélo dans la vie sportive au Canada. Et on a voulu faire le point avec notre confrère de la radio télé canadienne, Antoine Dehaye. On a fait un très large point de la vie sportive au Canada. Et vous allez voir qu'elle est importante. Allez, je suis avec mon confrère de Radio-Canada, Antoine Dehaye. Antoine, d'abord un petit mot sur l'importance de ce Grand Prix cycliste de Montréal.
Bon, c'est un classique depuis 10 ans. Donc ici, les gens sont là chaque année pour voir ces grands coureurs-là qu'on ne voit pas souvent en Amérique du Nord. On les voit bien sûr au Tour de France, au Giro, mais ici, c'est très rare qu'on les voit. Donc depuis 10 ans, généralement, le public ici répond présent parce que c'est rare qu'on peut les voir d'aussi proche. Et les coureurs sont très accessibles. On a vu ce matin qu'ils prenaient des photos avec les gens ici. Donc c'est un événement qui est devenu un incontournable à Montréal depuis 10 ans.
Oui, c'est vraiment un des grands événements sportifs de la saison, hein, sur Montréal et sur le Canada.
Il y en a plusieurs à Montréal. Entre autres, le tennis est rendu très populaire à la Coupe Rogers avec les jeunes Canadiens qui poussent Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu. Mais en termes de cyclisme, assurément que c'est un des grands événements. Il y a également des Coupes du monde de triathlon à Montréal. Il y a bien sûr le foot, l'équipe locale ici, l'Impact de Montréal. Bien sûr, le hockey prend une grande, grande place dans l'espace public et sportif montréalais. Mais disons que pour l'été, c'est une des bonnes, un des événements majeurs de l'été qui clôt un peu la saison estivale. On est rendu à la milieu septembre. Généralement, là, on s'en va vers l'automne, mais c'est un événement qui est assez important pour la métropole.
Oui, surtout qu'il y a Québec et il y a Montréal. Deux épreuves en 48 heures. Oui,
exactement. C'est normalement, il y a une rivalité entre Montréal et Québec, mais pas en vélo. En vélo, on partage les coureurs, le peloton comme ça. On dit parfois qu'à Montréal, le parcours est plus exigeant. La montagne est un peu plus dure que le parcours de Québec. Mais donc, je pense que les cyclistes aussi apprécient le court passage en Amérique du Nord, voir deux belles villes comme ça. Je pense que tout le monde ici apprécie.
Est-ce que le vélo est un sport très populaire au Canada? Est-ce qu'on s'intéresse? Est-ce qu'on suit avec beaucoup de passion, par exemple, le Tour de France?
Pas bien sûr comme en France, mais c'est un sport qui gagne beaucoup en popularité depuis une quinzaine d'années. Je pense que Lance Armstrong a fait beaucoup pour le vélo en Amérique du Nord, malgré bien sûr le scandale de dopage. Mais il y a des Québécois qui se rendent de plus en plus au Tour de France. David Veilleux l'a fait, Antoine Duchesne, Hugo Hull cette année avec Astana. Donc on sent qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le vélo, pour le cyclisme en général. Tant comme sport que comme déplacement à Montréal, de plus en plus de personnes ici prennent le vélo pour aller travailler. Donc on sent que vraiment que le cyclisme en tant que tel, il y a de plus en plus d'intérêt. De plus en plus de gens le font de manière plus ou moins sérieuse avec des clubs de vélo. Donc, bien sûr, on est loin de la popularité en France. Il n'y a pas l'histoire du Tour de France, mais c'est un sport vraiment depuis 15-20 ans qui a pris beaucoup de popularité ici au Québec.
Oui, et puis on a vu des anciens champions français participer à l'organisation de cette épreuve, comme Yves Vézard, comme Charlie Mottet, comme Bernard Vallet, par exemple.
Oui, voilà. Donc, bien sûr, on s'inspire de ce qui se fait en France. Mais ici, quand même, il commence à avoir une certaine tradition en vélo depuis plusieurs années. Mais c'est assurément un sport qui va tendre à se développer davantage.
Oui. Et vous, donc, votre télé, donc, suit cette épreuve avec beaucoup de passion?
Oui, assurément. Depuis le début de l'épreuve, si elle disait, on est là tous les années. On couvre à la télévision, à la radio, sur Internet, parce que c'est un sport qui intéresse beaucoup notre public cible à Radio-Canada. Donc, c'est un sport qui est en voie de se démocratiser. À une certaine époque, c'était surtout l'élite qui faisait du vélo de haut niveau. Là, on sent que ça attire de plus en plus les masses. Donc, pour nous, c'est très important d'être ici.
Oui, parce que c'est difficile hein, de faire du vélo ici chez vous l'hiver. Hein, donc.
Oui, la saison, elle est courte, mais écoutez, il y a des gens qui font du vélo même l'hiver dans la neige. Ça fait pas le plaisir à tous les automobilistes, mais c'est un sport qui, on tend à étendre la saison le plus possible. Le Mont-Royal, c'est bien sûr un lieu de rendez-vous pour les cyclistes. La fin de semaine, la côte Camignan-Houd, il y a énormément de cyclistes. Bien sûr, l'espace n'est pas toujours évident, la cohabitation vélo et voiture. Mais dès qu'on sort un peu l'île de Montréal, il y a plusieurs endroits magnifiques pour faire du vélo. Entre autres, les Laurentides, Mont-Tremblant, qui organisent le Ironman chaque année. Il y a énormément de beaux espaces pour faire du vélo. Mais à Montréal, on peut trouver certains endroits autour de la montagne. C'est vraiment le point central de ceux qui vont en faire. Sinon, le circuit de Formule 1 Gilles Villeneuve, il est ouvert une bonne partie de l'été pour les cyclistes. Donc là, c'est l'occasion de rouler à des grandes vitesses sans avoir de feu de circulation ni de voiture. Mais c'est clair que Montréal, c'est une métropole, c'est comme Paris, c'est difficile de s'entraîner à haute vitesse. Mais il y a des endroits comme le Mont-Royal qui est un peu un repère pour les cyclistes.
Oui, c'est vrai que ce sont des champions très accessibles, hein, les cyclistes. Oui,
assurément. Ce matin, j'ai été surpris. Je voyais Julien Alaphilippe à environ une dizaine de minutes du départ. Il y a un jeune qui a demandé un autoportrait, un selfie. Il a dit oui, pas de problème. Donc, on voit qu'ils sont très accessibles. Les Québécois aussi, par exemple, Hugo Hull, ce matin, de son hôtel, a fait une entrevue avec Skype à notre station de télévision vers 8h20. Donc, 2 heures avant le départ, était en entrevue quand même. Donc, c'est assurément des sportifs qui sont moins adulés que les joueurs de hockey ici, mais sont très disponibles. Hugo Hull, je me souviens que cet été, au Tour de France, prenait le temps après chaque étape de nous accorder une entrevue par Skype, par FaceTime. Donc, on sent qu'ils veulent faire découvrir leur sport. Mais oui, c'est des champions qui sont très accessibles.
Alors, il y a ce Grand Prix cycliste de Montréal. Et puis, la semaine prochaine, il y a un autre événement, c'est celui du marathon. C'est le marathon, carrément.
Oui, Marathon de Montréal, qui est également très populaire, plus au plan participatif. À une certaine époque, années 80, c'était une course qui était très relevée avec beaucoup d'élites. Là, c'est rendu plus un volet participatif. Il y a quelques élites qui vont courir en 2h15, 2h20, mais la majorité, c'est la masse. Ça aussi, c'est également c'est une grande tradition de Montréal. On a perdu le marathon pendant quelques années, mais là, c'est de retour depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années. Et assurément que c'est toujours un rendez-vous sportif très, très important avec beaucoup, beaucoup de coureurs. Pas nécessairement au marathon, mais au demi-marathon, 10 km, 5 km. C'est une grande fête populaire depuis plusieurs années. Et ça également, ça fait vibrer Montréal.
Oui, les deux événements se suivent pratiquement, hein?
Oui, ça se suit, mais c'est pas du tout le même type d'événement. L'élite versus la masse populaire, c'est deux festivals très différents. Mais écoutez ça, l'été n'est pas éternel. Avoir des températures clémentes pour faire le marathon, ça peut être très, très chaud, très humide l'été à Montréal. Donc, on n'a pas le choix de le faire en septembre. Et ça tombe un peu avec le même temps que le vélo. Mais c'est un addon comme ça. Mais disons que c'est deux belles fins de semaine de sport à Montréal.
Bon, naturellement, chez vous, le sport numéro un, c'est le hockey. Hein. C'est le sport qui fait parler, qui fait rêver, comme chez nous pour le soccer.
Ouais, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a un match intra-équipe du Canadien de Montréal au Centre Bell. Donc, c'est les Rouges contre les Blancs. Donc, c'est l'équipe qu'on a divisée. Et il doit avoir 15-20 000 personnes pour ce match-là. Un match qui ne veut absolument rien dire. Un match intra-équipe. Et c'est plein tout le temps. Et en saison, c'est 21 000 spectateurs qui peuvent entrer au Centre Bell. C'est presque plein à tous les matchs. Donc, bien sûr, c'est une immense tradition. C'est une équipe qui est centenaire. Donc, c'est la grosse affaire à Montréal. Mais aujourd'hui, c'est bien. Il y a une contre-offre avec le vélo qui attire un public un peu différent. Mais assurément qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles aussi qui sont au Centre Bell à l'intérieur pour voir ce match-là qui ne veut absolument rien dire, un match intra-équipe, mais c'est tellement dans l'histoire, c'est ancré dans l'histoire de Montréal, c'est de loin le club le plus populaire.
Oui, donc c'est le sport le plus populaire. Vous avez d'autres sports importants comme le foot américain ou le baseball aussi?
Oui, on a le foot américain, mais version canadien. Les règlements sont un peu différents. On n'a pas de baseball. Il y en a eu depuis très longtemps. Et là, il y a des rumeurs comme quoi que ça pourrait revenir. Il y a également le foot européen, le soccer, l'Impact de Montréal, mais qui ne va pas très bien. Il y avait un entraîneur français, Rémi Garde, qui a été viré il y a moins de 3 semaines. Et ça ne va pas du tout depuis qu'il a été viré. Donc ça, également, ça allait très bien, l'équipe. Mais là, depuis deux saisons, les résultats sont un peu en dents de scie. Donc la popularité tend à décliner. Il y a eu beaucoup de gens qui allaient voir les matchs quand Drogba était à Montréal. Depuis son départ, on sent que l'équipe cherche encore à prendre sa place dans l'écosystème montréalais.
Oui, c'est vrai qu'on était venu il y a 4 ans. Il y a eu l'arrivée de Didier Drogba. Hein, ça avait défrayé la chronique. Là, vous avez eu Rémi Garde, vous avez eu donc Duvergne, vous avez eu donc également Basse qui ont été donc remerciés. Le foot est important. On a fêté la victoire de nos Bleus du foot l'année dernière ici au Canada de façon importante.
De façon très importante. Ouais. Montréal, le plateau Mont-Royal, qui est le quartier où il y a énormément de visiteurs français ou d'habitants français qui sont installés ici à Montréal, les rues ont été fermées carrément. C'était vraiment l'explosion de joie. Ça a été très, très fort. Je pense que c'est la plus grande célébration de sport à Montréal depuis peut-être la victoire du Canadien en 93 ou encore des Alouettes au football un peu plus tard. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de Français à Montréal et naturellement, les Québécois vont, s'ils ont appuyé une équipe, ça va être la France assurément. Donc la Coupe du Monde a été très suivie. Avec le décalage horaire, parfois, c'est pas évident. Mais ça a été très suivi, mais je me souviens que le week-end de la finale, c'était vraiment la fête à Montréal pendant plusieurs heures, voire quelques jours.
Et puis, naturellement, vous avez d'autres gros événements. Vous avez dit le tennis, et vous avez une jeune qui a gagné de 19 ans, hein, Flushing Meadow, ouais. Andreescu, ça doit vous ravir.
Assurément, et j'étais justement au US Open pour les 2 semaines. Et puis ouais, il y a une génération qui pousse, Andreescu bien sûr, mais chez les hommes aussi, Denis Shapovalov qui a livré un bon match à mon fils à New York, et aussi Félix Auger-Aliassime qui a 19 ans aussi, qui nettoie le montant. Donc ça également, c'est un sport qui prend beaucoup en popularité présentement parce que on n'a jamais vu ça. Un grand chelem remporté par une Canadienne, c'est du jamais vu. Et de le faire si tôt avec une génération dorée comme ça qui pourrait nous offrir du bon jeu pendant 10, 12, 15 ans, assurément que c'est un grand privilège de pouvoir vivre cette époque-là. Et d'ailleurs, demain, Andreescu, elle sera à Montréal pour un entraînement public. On n'a jamais vu ça, un entraînement public pour un joueur ou une joueuse canadienne qui a eu autant de succès. Donc, assurément que ça, également, c'est un sport qui gagne en popularité. Seul problème, bien sûr, avec le climat, c'est un sport qui est encore réservé à l'élite parce que ça coûte très cher jouer à l'intérieur l'hiver. Donc, c'est peut-être ça qui ralentit un peu la popularité du sport. Mais en termes de cote d'écoute, la semaine dernière, je pense que c'est autour de 4 millions de Canadiens sur 32 qui ont regardé ce match-là. Donc, c'est bien sûr un sport qui attire beaucoup, beaucoup les gens présentement.
Ouais, c'était complètement inattendu, ce succès, hein?
Mais écoutez, à la tête de la Fédération canadienne présentement au développement, c'est un certain Louis Borfiga qui a travaillé longtemps au tennis en France. Et lui, après la Coupe Rogers, il y a 3 semaines, quand Andreescu a gagné à Toronto, il m'a dit « Je ne serais pas surpris si elle gagnait dès cette année au US Open ». Donc oui, c'est une surprise pour le public en général, mais ceux qui la connaissent, qui connaissent son style de jeu, sa force mentale, sa force de caractère, ne sont pas si étonnés que ça parce que présentement, c'est la joueuse de l'heure sur la planète. Elle a gagné, je pense, 45 matchs contre 4 défaites seulement depuis le début de l'année, même si elle a été blessée pendant 4 mois. Donc, c'est un phénomène présentement. Et plusieurs pensent que présentement, la meilleure sur la planète, c'est elle, même si au classement, elle est 5e. C'est elle qui a le jeu le plus complet présentement. Donc, assurément que c'est du jamais vu pour le tennis canadien.
Alors, autre événement important, c'est le Grand Prix de Formule 1 hein, qu'on a chaque année au mois de juin sur le circuit Gilles Villeneuve.
Oui, assurément, ça marque un peu le début de l'été. Généralement, ça marque le coup d'envoi des chaleurs estivales. Ça a été à une certaine époque très populaire avec Jacques Villeneuve notamment. Et là, on pense qu'avec Lance Stroll, ça pourrait redevenir populaire. Manque les résultats, bien sûr. Il y a une équipe de fond de grille qui tend à se replacer un petit peu. Mais ça aussi, c'est un grand événement qui attire beaucoup de touristes américains, puisque c'est un des rares arrêts de la Formule 1 en Amérique du Nord. Donc, en Europe, il y en a beaucoup, mais en Amérique du Nord, il y en a très peu. Donc, beaucoup le nord-est des États-Unis, il y a beaucoup de touristes qui viennent voir ça. Donc, c'est un événement qui est très important pour Montréal au plan économique. Mais c'est souvent ce qui marque le lancement des festivités d'été à Montréal. Il y a beaucoup de festivals durant l'été, mais le Grand Prix, généralement, c'est ce qui marque officiellement le début de la saison chaude.
Est-ce que le Canada est un pays foncièrement sportif avec tous ces événements?
C'est dur à dire. On a souvent le débat à savoir est-ce que Montréal est une ville de sport ou une ville d'événements. Il y a certaines équipes, quand c'est pas du hockey, qui ont du mal à attirer les foules. On n'a pas de ligue. On commence à avoir une ligue de foot canadienne qui a été créée cette année. On n'a pas de ligue de basket, pas de ligue de handball, pas de ligue de volleyball. Est-ce que c'est un pays, contrairement à la France, qui est tellement vaste, tellement grand, que c'est dur économiquement de faire vivre des villes parce que des ligues sportives dans plusieurs villes parce que le transport, c'est très, très cher, c'est très, très long. Donc, est-ce que c'est un pays de sport? Je pense que oui. Beaucoup des sports d'hiver. Aux Olympiques d'hiver, généralement, on a beaucoup de succès. Est-ce que c'est aussi fort qu'en France? C'est dur à dire parce qu'il y a la densité de population puis le fait que le territoire est plus petit. C'est plus facile d'avoir des ligues qui sont compétitives et qui sont fortes. Mais je pense que dans l'ensemble des Canadiens, je crois que c'est un public et un pays qui est assez sportif. Ouais.
Les Jeux olympiques, un jour, au Canada, à nouveau, c'est possible, notamment aux Jeux d'hiver. Vous avez eu Vancouver, vous avez eu Calgary, on se rappelle. Un jour, c'est possible?
Bien, on croyait peut-être avoir 2026, mais Calgary a voté contre lors d'un référendum. Je pense que les habitants là-bas étaient un peu suspects pour les dépassements de coûts. Montréal, les Jeux de 76, on a payé pendant très longtemps les déficits. Donc, je pense que ça a un peu refroidi les ardeurs de tout le monde. Peut-être qu'un jour, il y aura de nouveau les Jeux. Québec, je pense, aurait aimé les avoir. Manque la montagne qui n'est peut-être pas assez grande pour avoir les épreuves de descente. Est-ce qu'un jour, on aura une candidature Québec avec Lake Placid, qui n'est pas très loin d'ici, dans l'État de New York, possiblement? Mais je pense qu'on avait une belle occasion en 2026, mais les gens là-bas ont préféré passer leur tour par voie référendaire.
Vous savez que Montréal, ça rappelle de bons souvenirs pour les Français. On a eu Guy Dru, champion olympique. On a eu aussi Nadia Comaneci, la petite fille de la gymnastique.
Oui, sûrement, on en parle encore aussi. Comme Manachi, moi, en 76, j'étais pas né, malheureusement, mais c'est le nom qui a marqué les Jeux ici en 76. Et lorsqu'elle revient à Montréal, chaque fois, elle parle encore français, d'ailleurs, ça crée toujours la commotion. Donc, c'est de loin la grande vedette. On l'a appelée la reine des Jeux. Donc, elle, c'est peut-être, c'est le nom le plus fort encore qui vibre lorsqu'on évoque les Jeux de 76.
Oui, alors, au niveau Jeux olympiques, vous avez vu Ben Johnson, malheureusement. Ça s'est beaucoup moins bien passé.
Oui, on a eu Johnson qui, bien sûr, a été truqué de dopage en 88, mais ensuite, on a eu quand même en 96 le 100 mètres avec Donovan Bailey qui a non seulement gagné le 100 mètres, mais également le 4 fois 100 mètres dans un des grands moments de l'histoire du sport canadien contre des Américains qui pensaient absolument gagner facilement ce 4 fois 100 mètres-là. Mais ça a été les Canadiens qui l'ont emporté. Donc, il y a une belle tradition. Et là, on a André Degrasse au 100 mètres depuis quelques Jeux qui s'est un peu révélé à Rio. Il a remporté 2 médailles. Donc, l'héritage de Ben Johnson, disons qu'on en parle un peu moins avec les années, mais assurément que ça a marqué l'histoire du sport canadien, assurément.
Quel est votre regard sur la France, d'une façon générale?
En tant que pays ou en tant que nation sportive?
Oui, une nation sportive.
Ben écoutez, la France, j'ai toujours vu ça comme une nation qui est bonne dans plusieurs sports. Au Canada, on a nos chasses gardées, le hockey, bon, là, le tennis, on s'en vient bien, mais la France a toujours été fort en volleyball, toujours été fort en foot, bien sûr, au tennis. Lorsqu'on affronte une équipe française en tant que Canadien, c'est généralement assez compliqué parce que dans tous les sports, la France fait généralement bien. Moi, c'est ce qui marque un peu de la France, de ce que je peux voir d'ici. Je sais qu'un journal français, l'équipe, qui parle que de sport, qui est très varié. Bon, bien sûr, il y a une place extraordinaire accordée au foot, mais en général, c'est un pays qui me semble très compétitif dans plusieurs sports, dont le cyclisme, bien sûr.
Radio-Canada accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup au sport, naturellement.
Moins qu'à une certaine époque, parce que il y a deux chaînes sportives spécialisées au Québec, RDS et TVA Sport. Donc, graduellement, les coûts de diffusion ont augmenté, les coûts d'acquisition des droits. Donc,
Comme en France.
Donc, il y a le géant Internet qui s'attaque aussi à ça. Donc, on ne diffuse plus beaucoup de sport. Là, aujourd'hui, on fait des reportages pour les nouvelles. C'est important. On veut couvrir le sport comme un média, comme un journaliste. Mais en tant que diffusion, on en fait beaucoup moins qu'avant. Reste, les Olympiques est encore notre propriété sportive pour encore plusieurs années. Donc, ça, c'est le cœur de notre mandat de diffusion, c'est le sport olympique. Mais pour ce qui est des sports professionnels, il y a tellement de géants médiatiques spécialisés au Canada qui s'arrachent des pointes de tarte que c'est un peu difficile pour nous de trouver notre place dans tout ça.
En tout cas, les hockeyeurs sont de véritables vedettes. Hein. C'est des héros, hein. C'est l'équivalent de nos footballeurs. Hein.
Assurément, c'est le principal sport majeur de Montréal. Donc, le joueur qui a très peu d'impact dans le Canadien de Montréal a une plus grande visibilité médiatique que la plupart des sportifs. Et souvent, les vedettes du Canadien de Montréal ou encore les entraîneurs ont une visibilité médiatique qui est équivalente à celle des premiers ministres ici du Québec et du Canada. Donc, lorsqu'il y a des études qui sont faites sur le taux d'impact dans les médias, c'est généralement les plus connus, c'est le premier ministre, le maire ou la mairesse de Montréal, l'entraîneur du Canadien de Montréal. Donc, c'est des vedettes qui ils sont reconnus partout, la plupart des gens.
Et puis, pour un point plus général, hein, vous savez que la France va avoir les Jeux olympiques de 2024. C'est un énorme événement hein, qu'on attend tous.
Oui, et on a hâte de voir Paris aussi, parce que les derniers Jeux ont été souvent donc loin d'ici, en Amérique du Sud ou encore en Asie. Donc, assurément que Paris... Avec l'histoire de la ville, ça va être des jeux qui vont être très courus. Et pour nous, en tant que Canadiens, bien sûr, d'avoir les jeux à Paris, c'est presque comme c'était chez nous. Donc, assurément que c'est des jeux qui vont être très suivis ici.
Très bien. Ben merci, en tout cas, de nous avoir accordé cette interview. Juste un petit mot, qui va gagner aujourd'hui?
C'est
Matthews?
Mathieu, ça ferait une belle histoire parce qu'il ferait un doublé pour une deuxième année de suite. J'aime bien Peter Sagan, qui est toujours dangereux ici. Van Avermaet aussi. Pourquoi pas Alaphilippe? Mais ce matin, il avait pas l'air convaincu, mais ça serait une belle histoire.
Merci en tout cas.
Ça fait plaisir, au revoir.
Allez, la pub, la musique, et on poursuit après avec le Grand Prix.
Chef d'entreprise, vous cherchez plus d'espace pour votre activité? Alors, n'hésitez plus. Dans un environnement dynamique et privilégié dédié à l'entreprise, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire a créé pour vous un vaste parc d'activités à Rambouillet. Terrain disponible à partir de 1 500 m². Plus d'informations sur www.rt78.fr ou en contactant le service développement économique au 01 30 57 20 61.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégait. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu.
dimanche, 10h-11h, sur RVE. Retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Voilà, naturellement, cette émission, bah, vous pourrez la réécouter hein, en podcast très rapidement dans le courant de la journée, tout comme celle de la semaine dernière. On va continuer, je l'ai dit, avec le sport au Canada et le Grand Prix de cyclisme de Montréal. Et on va notamment retrouver un ancien grand champion sportif français, Yves Hézard, ancien champion de France de cyclisme sur route, et qui avait d'ailleurs été ensuite déclassé à l'issue de son titre. Yves Hézard, donc, qui était le grand témoin de cette édition 2019 à Montréal. Avec Yves Hézard. Alors Yves, présent ici à ce Grand Prix de Montréal.
Ah bah oui, depuis le début d'ailleurs, hein, puisque je suis un ami de Serge. Depuis la première édition, il avait souhaité organiser à Montréal un Grand Prix. Et donc moi, à l'époque, directeur sportif avec Bernard Vallée, on lui avait donné un bon coup de main pour démarrer son épreuve.
Ouais, vous aimez cet état d'esprit du cyclisme canadien ?
Oui, bien sûr, déjà le Canadien, le Québécois avant tout, bien sûr, c'est ici, on se sent chez nous, et on n'est pas dépaysé, et puis on sent qu'il y a un vrai public pour le cyclisme à Québec, ici, et donc c'est vrai que, bah, là, on le voit, c'est une réussite, les manifestations sont une réussite. Les coureurs adorent venir sur ces circuits, donc l'organisation est parfaite, donc voilà, c'est...
Oui, et comment d'après vous se présente l'avenir du vélo ici au Canada ou au Québec ?
Oh, bah, je crois que c'est un peu compliqué ici, enfin disons, pour parce que pour avoir un cycliste élite, il faut évidemment avoir des jeunes qui participent à beaucoup d'épreuves, et ici c'est quand même compliqué, l'hiver est long, les déplacements sont longs, c'est difficile, alors je crois qu'à l'avenir peut-être qu'il faut... faudrait envisager de faire courir des coureurs, des jeunes coureurs en Europe durant l'été, durant la période des courses cyclistes, pour élever l'élite, quoi. Mais bon, il y a du travail, mais je pense que Serge Arsenault a des ambitions encore et il va travailler dans ce sens-là.
Et vous, donc, vous prêtez main forte avec Bernard Vallée à cette organisation, ou notamment vous prodiguez quelques conseils ?
Oh, bah, quelques conseils, oui. Disons qu'on a délégué un petit peu à Charlie Mottet maintenant, parce qu'il reste quand même plus d'un an, plus, il est plus jeune que nous, il est resté encore dans le circuit du cyclisme. Nous, on est un petit peu en retrait, mais on est toujours là, évidemment, avec Serge. On fait partie de ses soutiens psychologiques, et puis on a du plaisir à être là, quoi.
Bon, et vous, Yves, qu'est-ce que vous êtes actuellement ? En retraite, carrément ?
Oui, carrément. Moi, j'avais une dizaine d'années que j'ai arrêté, puisque je travaillais à la société Mavic, pour m'occuper de l'image, du développement. Et donc, oui, il y a 10 ans, j'ai stoppé, on va dire, mon activité. Et puis voilà, je prends du plaisir, je fais un peu de vélo, je vais à la chasse, je vais à la pêche, et j'ai du plaisir à retrouver les amis.
Voilà, en tout cas, on s'est régalé cette année sur le Tour de France. Ça a été une bonne promo pour le vélo.
Ah, bah, cette année, c'est exceptionnel, oui, avec un petit Julien, bien sûr, hein, qui est d'ailleurs de ma région.
Oui.
Qui est un jeune coureur qui a du talent, bien sûr, mais qui a aussi l'ambition, qui a du caractère. Et finalement, il a redonné l'espoir au cyclisme français, voilà, disons, pour les années à venir. Hein.
Voilà, donc ça veut dire qu'un jour, un Français peut gagner le Tour. C'est une question qu'on a dû maintes et maintes fois vous poser.
Bah, je pense que cette année, avec le contre-la-montre qu'il a fait, moi, je me demande s'il n'est pas capable d'essayer une fois d'aller le chercher, quoi, de construire un programme de course autour du Tour, parce que là, il ne l'a pas fait, ce n'était pas l'ambition au départ. Mais là, peut-être que ça mérite réflexion.
Oui, oui. Et d'autres champions aussi qui arrivent, comme David Gaudu, par exemple, hein, des bons espoirs.
Oui, oui, on a vu leur qualité.
Gilles Bardet.
Oui, tout à fait. Ben, Bardet, oui, bien sûr, bien vu, voilà. Mais c'est vrai, Gaudu, bon, il a montré des qualités de grimpeur exceptionnelles. Ben, Pinot, il ne faut pas l'enterrer non plus. Il est quand même encore jeune. Cette année, il a raté le Tour, je crois, à cause d'une blessure. Mais autrement, je crois qu'il était vainqueur du Tour. Hein.
C'est une génération à laquelle vous auriez aimé appartenir, parce que le vélo a changé. Hein. C'est le vélo des oreillettes aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Mais enfin, ils ont du talent. Ils ont de l'esprit d'initiative. Je crois qu'ils ont l'air heureux de faire du vélo. Quoi. Il faut avoir du plaisir, parce que professionnel ou pas, il faut avoir du plaisir à faire du vélo. Et ils donnent. C'est vrai qu'ils sont. Ils donnent vraiment l'impression d'avoir envie d'aller bagarrer, de donner du spectacle, voilà.
Ouais, c'est ça le plus important. Et puis le vélo, c'est une bonne école de la vie, hein. C'est avant tout ça.
Ouais, évidemment, hein. Hein, évidemment, ouais. Évidemment. Ouais. Oui, ça c'est ce qu'on peut déjà dire avant tout, au départ. Ça va leur apporter des cartouches pour le futur, pour leur vie, donc c'est vrai.
Très bien, merci Yves en tout cas.
Je vous en prie.
Merci. Alors comme prévu, donc maintenant un point sur la course, hein, pour vous rappeler que c'est Van Avermaet, le Belge, qui s'est imposé devant Diego Ulissi et Ivan Garcia, l'Espagnol, qui termine troisième. À noter que Tim Wiels, qui avait gagné en 2015, hein, sous nos yeux, termine quatrième. Et puis que Julian Alaphilippe est treizième et premier français de cette épreuve. Alors c'est vrai qu'on a eu une course quand même qui a été très longue à se décanter. Pendant les deux tiers de cette épreuve, eh bien cinq coureurs étaient en tête, avec une avance qui a même un moment été jusqu'à 9 minutes. Et puis au fil des tours, ça s'est amenuisé. Et dans le dernier tiers, eh bien les coureurs ont été de cette course, les coureurs ont été rejoints. Et puis il y a eu des tentatives d'échapper, quelques escarmouches, notamment les deux Français, Benoît Cohenefroy et Julian Alaphilippe, qui visiblement n'ont pas tout à fait bien fonctionné ensemble, ce qui fait que leur tentative a échoué. Ça s'est fini au sprint. Et comme à Québec deux jours avant avec l'Australien Matthews, eh bien c'est Van Avermaet, le Belge, celui qui s'était déjà imposé en 2016, qui l'a emporté. Mais en tout cas, grosse déception, c'est le moins qu'on puisse dire pour Benoît Cohenefroy, qui pensait pouvoir jouer la gagne en compagnie de Julian Alaphilippe.
Je suis un peu déçu de passer à travers, vu les jambes que j'avais, mais comme je dis, voilà, c'est l'équipe a super bien bossé et je suis vraiment content de ça. Et ouais, j'aurais juste voulu conclure pour eux, même si je pense que Nance fait une belle place. Je sais pas combien il fait, mais ouais, j'ai vu au sprint qu'il était bien là. Et voilà. Ouais. Je suis content, mais la première chose à l'arrivée, c'est la déception de ne pas être allé au bout alors que j'avais les jambes pour.
C'est vous un peu fâché avec Alaphilippe dans le dernier tour. Qu'est-ce que vous avez dit entre vous parce que...
Bah, moi, je voulais que Julien passe plus d'early. Ouais, c'est sûr qu'il était sûrement à fond. C'est ce qu'il m'a dit à l'arrivée. Mais ouais, je suis déçu. J'aurais bien rêvé d'un doublé français ici à Montréal avec Julien. On avait fait le plus beau. Et ouais, j'aurais vraiment voulu faire ce doublé là avec Julian, même si on n'est pas de la même équipe. Voilà, on a ce lien français et je connais Julian depuis longue date. Donc voilà, ça aurait été joli hein, de faire les deux ici. Okay.
Vous avez tapé sur le guidon là, dans le sprint, qu'est-ce que ça voulait dire
Ouais bah. En bas de la. Ouais, en fait je voulais que Julian passe. Voilà, je sais qu'il est plus fort que moi et ouais, j'espérais qu'ils mettent un grand lait pour peut-être lui jouer la gagne et enfin au moins qu'on arrive à 1-2. Malheureusement ouais, il était à fond et il a pas pu relayer et moi je voulais pas non plus enfin je voulais jouer la gagne aussi quoi. Donc j'ai joué dans le final pour essayer de gagner et malheureusement voilà, je dois faire 25e ou 30e. Donc ouais, je suis un peu déçu à l'arrivée parce que j'avais vraiment les jambes pour faire de belles choses et peut-être pour gagner aujourd'hui. Ouais.
Les 300 derniers mètres, c'était vent de face, ça semblait long comme sprint à la toute fin, difficile.
Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu que le groupe allait revenir, j'ai essayé de lancer de loin, mais c'est sûr que il y a du pourcentage, mine de rien, c'est assez dur. Et ouais, il y avait un vent défavorable aussi, donc ouais, c'est interminable cette dernière montée. Et ouais, j'ai rien d'autre à dire. Mais...
Ça te fait plaisir quand même avec ce grand numéro, même si c'est pas le résultat quand on joue la victoire, si près de la victoire au final, mais ça te fait plaisir quand même avec
Ouais, c'est sûr, je me suis fait plaisir. Déjà, j'adore ces courses-là. Ouais, ces deux courses-là, je les ai faites déjà l'an passé. J'ai pris énormément de plaisir. L'an passé, je vais me faire prendre au kilomètre, alors que j'avais attaqué à 3 km de l'arrivée, seul. Là, je vais me faire prendre à 150 mètres. J'espère qu'un jour, ça me sourira ce parcours. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir sur ces courses en circuit. Je prends beaucoup de plaisir ouais, à attendre un final comme ça et j'attends qu'une chose au départ, c'est de jouer dans un final. Et là aujourd'hui, j'ai pu le faire, comme je dis, avec une équipe qui m'a parfaitement entouré toute la journée. Et ouais, j'aurais aimé leur offrir ce résultat aussi.
Vous aimez ces courses au Canada, Benoît ?
Comment ?
Ces courses au Canada,
ouais, l'ambiance. Ouais, c'est vraiment des belles courses, enfin des très belles courses avec une bonne ambiance. C'est des courses qu'on peut dire de championnat. Et c'est sûr, c'est des courses que j'affectionne, ouais.
D'accord. Maintenant, la suite, c'est quoi ?
Je sais pas trop. Là, je vais encore faire deux Coupes de France et normalement, j'ai ma fin de saison.
D'accord. Merci. Bravo, en tout cas, pour la saison. Hein.
Merci.
Voilà, et puis comme Julien Alaphilippe n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes, eh bien on est allé voir Vincent Lavenu, le manager général de l'équipe AG2R Prévoyance, pour savoir si lui aussi n'était pas trop déçu du fait que l'échappée entre Conefroy et Julien Alaphilippe n'ait pas pu aller à son terme.
Vincent Lavenu, alors pas trop déçu du final de ce Grand Prix de Montréal?
Si, forcément un petit peu déçu, à partir du moment où Benoît Cosnefroy se fait prendre à 100 mètres de la ligne et qu'il était en tête depuis pratiquement 10 km, il y a forcément de la déception. Le garçon a fait un très bel exploit aujourd'hui, ça montre que c'est un coureur qui monte en puissance dans la hiérarchie mondiale, mais forcément on s'attend à gagner des grandes courses et voilà, quand on ne gagne pas alors que le boulot a été fait, c'est forcément, on est déçu. Je suis d'abord déçu pour lui parce que le gamin a fait quelque chose d'extraordinaire, il n'a pas été récompensant de ses efforts, voilà. Maintenant il a démontré quand même que c'était un grand coureur d'avenir. Il y a un coureur qui a du tempérament, qui a du punch et qui progresse à vitesse grand V.
Oui, il aurait aimé finir avec Julien notamment, à la Philippe.
Oui, ben, le fait que Julien derrière sorte et le rejoigne dans le final à 4 km de l'arrivée, c'était une bonne opportunité. Et forcément, Julien étant un coureur épié par les autres, personne n'a laissé faire et s'en faire prendre finalement dans le sprint final. Mais bon, c'était bien tenté. C'est que deux Français en tête de la course à même dans le dernier kilomètre, ça s'était pas vu depuis très longtemps dans un type de Coupe du Monde. Et voilà, la part du gâteau, du travail qui a été fait, c'est beaucoup par Benoît Cosnefroy et il aurait mérité d'être récompensé.
Oui, en tout cas, c'est un bilan positif sur ces deux jours à Québec et à Montréal.
Ouais. Oui. Enfin, c'est positif. C'est toujours plus positif quand on gagne des courses. Hein. Il manque pas grand-chose. Hein. On a des garçons, notamment une jeune équipe, parce qu'on a vu Nance Peters aussi, Aurélien Paré-Peintre, des jeunes garçons aussi qui étaient présents. Mathias Franck qui était présent dans le final. Donc une équipe qui était aux avant-postes, mais qui, voilà, on n'a pas gagné. Donc forcément, il y a toujours un petit peu de déception.
Pour maintenant, la suite de la saison, encore beaucoup d'objectifs.
Oui, bah après toute la fin de saison, il y a le championnat du monde qui arrive, le Tour de Lombardie. Donc
il y a
encore de belles épreuves à faire.
Merci Vincent.
Merci.
Donc pour en finir avec ce Grand Prix cycliste de Montréal, donc je vous l'avais dit, 13e Julien Alaphilippe, 17e donc Benoît Cosnefroy, 18e Peter Sagan et 19e Michael Matthews. Allez, on va maintenant parler tennis. On va rejoindre notre ami Jean-Louis Mazard, le très occupé président de la sélection du Tennis Club de Rambouillet. Jean-Louis, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Bon, Jean-Louis, comment ça va en ce début d'année? Parce que c'est vrai que c'est un programme qui est bien rempli, hein, qui est bien chargé.
Oui, ben, un peu comme chaque année, mais oui. Bon, cette année, on a rajouté quelques petites choses en plus, parce que sinon, ça serait trop simple. Donc, oui, bien chargé, beaucoup de choses.
Oui. Alors, ça a commencé le premier week-end du mois de septembre, c'était il y a 3 semaines, hein, à l'occasion des finales sud-divines de tennis de Master. C'était à Abbey. C'est maintenant une tradition de commencer une saison de tennis à travers ces finales.
Oui, c'est une tradition. Je dirais même qu'on a même commencé un peu avant, parce que j'avais encore un dernier tournoi, moi, 8-10 ans vert, qui se faisait fin août, qui comptait pour cette phase finale. Donc, en fait, on a un petit truc en plus avant. Et donc là, effectivement, cette année, c'était à Blis. L'année prochaine, ça sera dans un autre club. Et on a toujours autant de gens qui sont intéressés pour participer.
Oui, on va rappeler un peu le concept. Nous, on le connaît, hein, puisqu'on est radio partenaire sur l'événement. Mais on va rappeler un peu le concept aux auditeurs.
Oui, donc on a réussi à créer un circuit, on va dire, tennis au niveau du Sud-Yvelines. C'est pour ça que ça s'appelle Sud-Yvelines, qui regroupe 8 clubs. Ça regroupe à Blis, Chevreuse, le Mille-Saint-Denis, Saint-Arnoult, le Perret, Ternay-la-Ville, Rambouillet, Guyancourt. Donc les jeunes participent au tournoi qu'ils peuvent, hein. C'est pas obligé de faire les 8 évidemment, et ils gagnent des points s'ils arrivent en finale, en demi, en quart. Et en fin d'année, dans chaque catégorie d'âge, on prend les 6 meilleurs qui ont réussi à obtenir le plus de points sur l'année. Et là, on leur fait une phase finale.
Voilà, le temps d'un week-end, hein, dans un club...
qui change chaque année, dans un des 8 clubs partenaires évidemment.
Oui, différent, et avec donc plusieurs catégories.
Oui, on a les catégories des 9-10, la catégorie des 12 ans, des 13-14, des 15-16, des 17-18, filles, garçons, donc ça fait beaucoup de catégories. En général, c'est un peu plus d'une cinquantaine de joueurs qui participent à cette phase finale.
Et Jean-Louis, dans ces jeunes, est-ce qu'il y en a déjà qui confirment et puis qui commencent à percer, même à l'échelon supérieur?
Ah ben bah, ça joue bien, oui.
Oui, oui, ça joue très bien. On en a été les témoins, ça joue très bien.
Voilà, niveau Ligue Île-de-France, il y a des joueurs en seconde série, même dans les petites catégories, les 13-14, les 15-16. Voilà, bon après, est-ce qu'ils deviendront joueurs professionnels, c'est une autre affaire.
Oui, bien sûr.
On connaît le système qui est un peu compliqué, mais là ça joue vraiment très très bien, ça joue. Mmh. On peut se déplacer pour voir ces phases finales.
Comment est venue l'idée de la création de ce tournoi sous cette forme?
En fait, c'était à l'époque où feu Jean-Louis Perrault, ouais. Du président de
Dabli. Mmh.
On en avait discuté tous les deux parce que moi j'ai connu ça quand j'étais plus jeune. Il y avait un tournoi circuit comme ça pour les adultes, donc mmh. dans les années 80. Mmh. Et on s'est dit qu'au niveau des jeunes, c'était peut-être sympa de créer un mouvement pour que ça fasse jouer un peu plus d'enfants. Et donc tous les deux, on s'est réfléchi un peu au système et on s'est dit on va essayer de démarcher quelques clubs alentour. Donc on a commencé en fait avec Ablis, le TC Rambouillet, on a fait le Perret. Et il y avait un quatrième.
Saint-Arnoux qui était là.
Oui, voilà. Voilà. C'était la première année, on était quatre. Et la deuxième année, la Clairière est venue nous rejoindre. Puis bah, après, on a d'autres clubs qui sont arrivés. Puis là, on est à huit clubs depuis 4-5 ans. Parce que là, c'était la 12e édition quand même, déjà, ça tourne.
Ah oui, déjà. Et puis, ça réunit tous les clubs d'Île-de-France hein, qui viennent participer à ces phases finales.
Hein. Oui, parce qu'en fait, là, on a eu à peu près 750 participants sur l'ensemble de ce circuit. Et on a quand même, ça représente, j'ai fait une petite stat, ça représente 119 clubs représentés.
Oui, 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 oui.
Et 15 départements représentés.
Oui.
Donc ça fait quand même effectivement toute l'Île-de-France, le 28, le 27. Mmh. Donc ça fait bouger, ouais, c'est clair.
Alors ça, c'est une belle réussite. Et puis, il y a la suite, naturellement. Et la suite, pour vous, ce sont les trophées RVE la semaine prochaine. Vous allez vouloir les gagner. Hein.
Ah ben, on va essayer. voilà. Mais bon, surtout participer, parce que c'est tellement plaisant. On a pu revenir dans ce groupe-là l'année dernière, donc ça a beaucoup plu au club. Et donc cette année, voilà, c'est Marc Nelly qui va s'occuper de partie TC Rambouillet, voilà, pour présenter les jeunes. Et donc effectivement, il y a ce tournoi qui démarre le 28 et 29.
Oui, c'est le week-end prochain. Hein. Et c'est un tournoi que vous avez intégré un peu sur le tard, mais.
On a pris une place vacante.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est comme ça. Ouais.
Oui, c'est comme ça que ça passe. Non, mais c'était très bien. Donc ça démarre. Ce week-end, je termine mon tournoi Open Jeune.
Voilà, ça aussi, il faut en parler.
2020.
Ouais, ouais.
Donc en fait, parce que là, on est déjà sur la nouvelle saison.
Et oui.
Si on dit, nous, démarre au 1er septembre. Donc on est sur 2020. Donc là, ça finit. Les finales sont aujourd'hui. Et donc après le trophée RVE, le 5 et 6 octobre, on a notre circuit du Lyon-Sourd.
Oui, alors ça c'est important aussi, Jean-Louis.
Ouais.
Il faut en parler. La première édition avait lieu l'année dernière, on y était. Donc vous remettez ça.
Voilà, on remet ça en faveur de l'autisme pour les aider, les enfants malades. Voilà, donc on refait une deuxième édition, puis j'espère bien une troisième année prochaine, et puis continuer, ça marche bien, ça intéresse bien les adultes, c'est des systèmes de poules, ils font plusieurs matchs, donc c'est assez sympa.
C'est bien quand même quand le sport comme ça se met donc au service d'une cause caritative.
Ah bah oui, bien sûr, je pense qu'il y a énormément
et dans le tennis,
de situations qui fonctionnent comme ça. Ouais.
Ok, on marque une toute petite pause musicale, un petit break de pub, et puis on se retrouve. Okay.
C'est la rentrée, 17 septembre au 5 octobre. La Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement, vous fait profiter d'une offre exceptionnelle. Bénéficiez de 100 euros de remise par tranche de 1000 euros sur nos gammes de fenêtres, portes, volets, portails et portes de garage. Et à partir de 5000 euros d'achat, repartez avec votre coffret Smartbox. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions en magasin, offre non cumulable avec toute offre en cours. Coffret Smartbox offert dans la limite des stocks disponibles.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnoult en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. changez de vie et devenez Évry Pontin.
Allez, Jean-Louis Mazard, tiens, un petit mot quand même. Vous savez que Jean-Michel Lesprit, il y a eu une belle fête du sport hier sur Aufargis. Hein, votre ami Jean-Michel y a participé. C'était en tout cas une journée très 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 sympa et en plus très ensoleillée pour l'ensemble du sport sur Aufargis. Donc c'était sympa, voilà.
Bon, super.
Voilà. Alors ensuite, le restant de la saison, c'est quoi? Un petit peu.
Le restant de la saison, une opération qu'on a lancée cette année, là, qui a très bien marché, c'est on a proposé une initiation découverte pour les dames.
Ah oui.
Parce qu'en fait, la réflexion que je me faisais, c'est que les débutants adultes viennent très peu s'inscrire dans les clubs. Les dames, encore moins. Hein, elles ont elles font d'autres sports et puis elles trouvent que c'est peut-être compliqué de venir toutes seules dans un club.
Oui, c'est un problème dans votre sport. Hein. Il y a une petite désaffection.
Ouais, voilà, dans le tennis, faire venir les dames découvrir le tennis, c'est compliqué. Donc là, on a fait une belle promotion. On offrait 6 heures de cours gratuits et 3 mois d'adhésion pour 30 euros. On ne pouvait pas faire mieux. Et du coup, on a 26 dames débutantes qui se sont inscrites et on a démarré les cours cette semaine. Elles sont enchantées.
Bon, c'est bien.
Elles vont poursuivre l'année parce qu'on leur fait aussi d'autres propositions pour pouvoir rester toute l'année. Au niveau tarifaire, elles vont pouvoir jouer pour 9 euros par mois.
C'est impeccable.
J'essaie de lancer comme ça, j'espère que ça va leur plaire. Donc on a ça. Après, on a lancé les inscriptions adultes, mais cette fois du club, quoi, classique, ceux qui ont déjà joué. Donc on a des permanences tous les samedis matins de 10 à 12 pour qu'ils s'inscrivent ou se réinscrivent. Et des cours collectifs adultes qui vont démarrer mi-octobre. Donc il y a encore temps de venir s'inscrire au club ou de téléphoner. De toute façon, on a tous les renseignements pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur tcrambouillet.fr. C'est notre site. On est tout dessus.
Oui, parce que vous êtes combien là après le forum des associations d'il y a 15 jours?
Alors, en enfants, on est à peu près 150. On c'est bien, mais on a un tout petit peu baissé, mais ça se réinscrit encore, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a encore eu pas mal d'inscriptions. Mm-hmm. Et puis les adultes, c'est en cours. Donc là, on ne peut pas faire encore de bilan, mais ça se réinscrit normalement. Par contre, au forum des associations, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde partout, en fait.
Oui, bon, tant mieux. Parce qu'à un moment, je crois savoir qu'il y avait une petite désaffection pour le tennis, une petite baisse des effectifs, mais bon, ça semble plutôt bien, bien reparti.
Nous, on est très bien reparti l'année dernière, parce qu'on faisait partie des rares clubs, on va dire, il y en avait un peu hein, quand même, mais il y a des rares clubs qui sont montés en nombre de licenciés. Parce que malheureusement, au niveau fédéral, c'est quand même en baisse depuis plusieurs années, donc on essaie d'arrêter un peu l'hémorragie. Donc on va voir cette année ce que ça donne. Au revoir, à faire à suivre.
Ouais, puis Jean-Louis, il faut quand même rappeler que bon, le tennis, il y a la compétition, mais il y a aussi le côté loisir, et ça veut dire que la pratique de loisir, elle peut se faire en famille. Et ça, c'est important.
Ah oui, complètement, bien sûr. C'est pour ça que on a aussi, on a mis en place en fait un tarif spécial de parents.
Oui.
Parce que les parents qui veulent jouer qu'avec leur enfant, qui eux sont à l'école de tennis, ils ont un tarif très, voilà, très amoindri et ils ne jouent qu'avec leur enfant, en fait.
D'accord.
Ils jouent pas avec les autres adhérents. Par contre, ceux qui veulent jouer avec tout le monde, bah, ils payent une cotisation normale. Mais effectivement, on fait souvent des animations parents-enfants ou invite un ami ou invite un copain, une copine. Voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont tout au long de l'année pour essayer de faire découvrir le tennis à des personnes qui ne le connaissent pas.
Ouais, et puis dans l'ensemble, bon, les prix sont raisonnables au niveau cotisation, au niveau prix. Hein, le tennis, c'est un sport très abordable depuis très longtemps.
Oui, ça fait quasiment 5-6 ans qu'on n'augmente pas les prix. Alors évidemment, bon, c'est pas donné quand même, mais ça reste abordable. C'est autour de 300 euros, 250-300 euros pour une année de tennis pour un jeune avec des cours, quoi, et pour voir toute l'année. C'est un peu plus cher évidemment que les sports collectifs, mais ça on peut pas rivaliser. Bon, après on a aussi des enseignants professionnels, tous diplômés d'État, donc ça aussi ça a un coût. Donc forcément on essaie de budgéter pour que la trésorerie se tienne bien.
Et puis le souci d'un président comme vous, c'est de trouver cette harmonie entre la compétition et le loisir au sein de votre club.
Oui, bah en Bouillon, on est pas mal. Parce qu'en fait, on a un beau cadre loisir où les adhérents adultes ont quand même beaucoup d'espace pour jouer, de temps de jeu au niveau des terrains libres, malgré les compétitions qui arrivent au mois de juin ou les matchs d'équipe. On a aussi du loisir, mais c'est pas du loisir haute compétition. C'est du loisir compétition plutôt au niveau ligue. Département, voilà, donc ça prend du temps de jeu aussi, hein. Mais ça reste une compétition que j'appellerais loisir. J'aime bien tout ça comme ça.
Et une question que j'ai souvent posée aussi, même à vos amis du tennis club de la Clairière, il y a de la place pour deux clubs sur Ambouillet ?
Oh, bah oui, pour l'instant, ça tourne bien des deux côtés. Hein. Moi, je connais bien le nouveau président.
Oui, qui tenu à notre micro.
Il jouait avant au TC Rambouillet il y a X années, et donc on se connaît bien, et apparemment ça tourne bien chez eux. Voilà, nous, ça tourne bien chez nous. On s'est habitué à avoir deux clubs dans les villes, hein, c'est pas rare. On est quand même à une ville où il y a quand même beaucoup d'habitants.
Oui. Et puis des actions communes ensemble, c'est possible un jour ?
Oui, on en a préparé une justement avec leur prof qui on s'est contacté et que je connais, hein, Jean-Emmanuel Jopard, qui est arrivé l'année dernière chez eux. On va faire un plateau école de tennis, donc justement axé pour le loisir. On va faire venir les jeunes de chez nous chez eux, puis les jeunes de chez eux chez nous sur deux journées en aller-retour pour que ils puissent rencontrer d'autres jeunes, mais ça reste. Ça sera des compétitions animation, mais c'est plus pour ceux qui ne font pas vraiment de la compétition. Ça, c'est pas mal.
Et le Téléthon, vous y pensez ? Parce qu'eux, ils y sont pratiquement tous les ans. Hein.
Oui, eux, ils y sont. Nous, c'est vrai qu'on l'avait fait il y a déjà quelques années. Mais on avait eu du mal un peu à booster nos troupes au niveau inter-club. Donc, on voulait essayer de trouver une solution pour se coupler avec d'autres associations, peut-être, pour avoir une... une envergure un peu plus importante, mais bon, là on a reçu les papiers, donc c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose aussi.
D'accord. Donc Jean-Louis, pour en finir avec ce programme très chargé de rentrée, si on veut venir vous rejoindre, c'est encore possible. Comment fait-on et quels sont les prix ?
Alors on vient au club le samedi matin de 10 à 12 pendant les deux samedis de septembre, ou même le dernier, il reste un samedi en septembre. Après, le mieux, c'est de téléphoner au club pour prendre un rendez-vous. Comme ça, après, on fixe un rendez-vous quand ils veulent et rencontre un dirigeant qui peut faire l'inscription. Après, on peut s'inscrire toute l'année, hein, on a des tarifs dégressifs. Même si quelqu'un veut venir jouer au mois d'avril ou au mois de novembre, il n'y a aucun problème. Et comme je vous dis, il y a le site où là, il y a vraiment tout dessus, hein, tcrambouillet.fr. Il y a le numéro de téléphone, il y a le mail, on peut nous joindre, on est contactable et c'est comme ça qu'il y a ça.
Très bien. Vous savez qu'on vient du Canada, Andreescu, ça a fait un tabac, hein, sa victoire là-bas, à Flushing Meadows.
c'est bien. Hein? Oui, le haut niveau a aussi son intérêt, hein, il n'y a pas de problème. Il y a bientôt la nouvelle Coupe Davis qui va démarrer, là, j'espère que ça va...
Oui, alors vous, le président du TCR, qu'est-ce que vous en pensez de cette formule ? Parce que ça a tué la Coupe Davis, quoi, ça a plus la même saveur, ça a plus le même...
Oui, pour moi, ça me fait bizarre, moi, j'ai toujours connu... je sais pas. Franchement, il faut voir. Moi, j'attends de voir. Hein. On va pas commencer à tirer dessus sans... C'est tout nouveau. Est-ce que ça va mieux prendre, moins bien prendre ? En tout cas, c'est hyper condensé, quoi. C'est sur une semaine, tout le monde va jouer. Est-ce qu'on va arriver à tout suivre ? C'est compliqué.
Oui, parce qu'on sait que c'était aussi le rêve de tout joueur de tennis, hein, gagner un tournoi du Grand Chelem et puis la Coupe Davis. Hein, ça faisait partie de...
Oui, c'est quand même quelque chose.
Bah oui.
C'est un sport individuel qui se transformait en sport d'équipe.
Et oui.
Voilà. Et donc là, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ce qu'il va donner. On va attendre de voir et puis on tirera des conclusions après. On verra bien ce qu'ils vont. Ils vont nous dire les instances, les autres instances.
Mmh. Très bien, Jean-Louis, merci. On se retrouve la semaine prochaine donc pour les trophées RVE.
Eh bien, trophée RVE, pas de problème. J'ai un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'on fait des stages de tennis aux vacances de la Toussaint pendant la semaine aussi. Il y a des enfants qui n'ont pas le temps de jouer à l'année. Ils peuvent venir essayer le tennis, découvrir ou se perfectionner s'ils savent déjà jouer sur nos stages pendant la première semaine, parce que c'est ouvert à tout le monde.
Donc, voilà. ils viennent s'inscrire comment et quand?
Pareil, toujours, peuvent nous téléphoner ou passer par le site du club et il n'y a pas de problème, on les recontacte.
Très bien. Merci Jean-Louis. À très bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Louis Mazard. Merci de nous avoir été fidèles. On vous a fait un peu voyager ce matin, mais enfin, c'était aussi notre cadeau, notre façon de récompenser votre fidélité depuis 32 ans pour ce dernier dimanche de l'été. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On reviendra dans une émission plus classique. On aura notamment les pronos pour les courses à l'hippodrome du Rambouillet. On devrait parler de pentathlon moderne. Et puis, ça sera le retour aussi de la chronique golf avec Fabien. Bon dimanche à toutes et à tous. N'oubliez pas, il y a aussi les journées du patrimoine.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, la popularité d'Emmanuel Macron en baisse selon un sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche. La cote de popularité du chef de l'État baisse d'un point, de 34 à 33%. Le total des mécontents à l'égard du président, même s'il reste très élevé, baisse de 2 points pour atteindre 64%. En revanche, c'est l'embellie pour Édouard Philippe. Toujours selon ce sondage, la cote de popularité du Premier ministre passe de 36 à 38%. Un homme a foncé volontairement hier soir sur l'entrée de la grande mosquée de Colmar. Le conducteur a été rapidement interpellé sur place par la police après s'être blessé lui-même à l'arme blanche. Aucun autre blessé n'est à déplorer. Une enquête est en cours. Le Texas sous les eaux après le passage de la tempête tropicale Imelda et 3 jours de pluie diluvienne. Les évacuations se multiplient.